Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Cette émission est réalisée par Radio Campus Amiens, elle est disponible sur le 87.7 FM, sur le DAB+, et sur radiocampusamiens.fr. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission un peu spéciale. En effet, l'équipe de Boumka Radio, l'émission des résidents du Château Blanc de Flixecourt, prend le contrôle de la quotidienne. Ils sont allés à la rencontre du photographe Ludo Leleu afin d'en apprendre plus sur l'exposition chronique de la vie ordinaire, réalisée en partenariat avec le Château Blanc ADAPI 80 de Flixecourt.
Bonjour Ludo.
Bonjour Hubert.
Est-ce que tu peux nous parler de l'origine de ce projet ?
Donc la Lune des Pirates m'a branché pour venir faire des ateliers ici au Château Blanc. Et en fait, si tu veux, il y a un an, on avait déjà parlé, un an et demi avec le Château Blanc, de faire une année d'immersion pour moi ici. Et en fait, ça n'avait pas pu se faire. Du coup, le fait que la Lune me branche sur, me propose ce projet... J'y ai intégré aussi une immersion d'une semaine par mois pendant 4 mois. Et donc du coup, c'est à l'initiative de la Lune, en fait. Voilà.
D'accord. Pourquoi avoir choisi le Château Blanc à ADAPI 80 ?
Alors pourquoi en fait, ça a commencé, la rencontre avec le Château Blanc, en fait, ça a commencé via Jérémy sur les concerts que vous faites ici, là, une fois par trimestre. Et donc, on a... Moi, j'ai commencé par venir faire des photos de ces événements à chaque fois, et puis de là a été émis l'idée de faire des résidences. Vous, il y a déjà un partenariat avec la Lune des Pirates, et du coup, en fait, c'était une évidence que 6 ateliers devaient y avoir, ce soit avec vous. Et c'est parce que déjà, il y avait déjà une histoire en amont entre la Lune et le Château Blanc, et en l'occurrence, le Château Blanc et moi, quoi.
D'accord. Comment es-tu devenu photographe ?
Alors écoute, c'est un truc, c'est, franchement c'est comme ça, c'est en fait, j'ai fait ma communion il y a bien des années, voilà, c'est, je sais pas pourquoi, mais bon, et en tout cas je ne vais pas le regretter parce qu'il y a quelqu'un qui m'a offert un Polaroid, et de ce jour j'ai dit, je veux être photographe. Donc en fait c'est à peu près le seul métier que j'ai voulu faire depuis que je suis tout petit. À cause ou grâce à ce cadeau qu'on m'a fait à une communion.
Comment as-tu vécu les moments de passage avec les résidents ?
Très mal. c'était super, c'était une super rencontre, c'était un super moment. Et c'est pas fini, j'espère, parce que logiquement, j'en dis pas plus, mais ça n'est pas terminé, je l'espère. Non, c'était un super moment. Moi, j'ai vécu des rencontres hallucinantes, extraordinaires. J'ai vécu des moments... je suis passé par toutes les émotions, en fait. C'est difficile à résumer, là, comme ça, d'un seul... Enfin, là, rapidement, parce que c'est... c'était... Pour le sujet, pour le travail, pour l'atelier, c'était génial, parce que le travail qui a été fourni a été super. Et puis après, humainement, c'était un ascenseur émotionnel. Et j'en profite pour remercier le Château Blanc, tous ses résidents, pour l'accueil qui m'a été fait et de m'avoir accepté. C'est gentil, c'est nickel. Et en fait, je pense que c'est une rencontre qui est marquée à vie, là, pour maintenant. Voilà.
Comment as-tu utilisé la photographie pour représenter la réalité du Château Blanc ?
Je l'ai utilisé. En fait, c'était juste le prolongement de... C'était mon troisième œil, en fait, et c'était... je sais pas si t'as fait attention, j'étais tout le temps avec un appareil photo. J'avais du matin au soir, en fait, je pense que vous m'avez toujours tous et toutes identifié comme... il y a Ludo et son appareil photo, ou l'appareil photo et Ludo. Enfin, quand il y en avait un, il y avait l'autre. Je sais pas, en fait, pour moi, c'était naturel de... c'est naturel pour moi d'utiliser l'outil, le média photographique. Et là après c'était je sais pas, c'était particulier parce que moi c'est pas ce que je fais habituellement, tu vois, et là c'était un travail vraiment hors cadre pour moi. J'ai énormément appris et ça m'a, je saurais pas vraiment rentrer dans le détail là parce qu'en fait je m'y suis pas vraiment, faudrait que je me pose des questions. Et là il a fallu que je, comment dire, enfin C'est, je sais pas comment le décrire. Là, c'était une immersion. C'était plus du rapport humain que de la photographie pure.
Bonjour Clémence. Bonjour Yana.
Bonjour. Bonjour Philippe.
Pourquoi avez-vous rejoint ce projet ?
Parce que c'était un projet culturel tout à fait nouveau. Je dis pareil.
Avez-vous pris des photos sur le moment où vous avez fait une mise en scène ?
Un peu les deux. Les deux, ouais.
Comment vous choisissiez ?
Quand c'était de la mise en scène, comme par exemple c'était des objets dans ma chambre, je pouvais les cadrer selon ce que c'était. Mais par exemple, si c'était le chat, c'était un petit peu difficile de le mettre en scène, mais on pouvait quand même y arriver. Par contre, les résidents, c'était moins facile de les mettre en scène. Donc c'était pris sur le moment.
Comment avez-vous vécu ce projet ?
Moi, très dur. Très dur. Dépression, j'ai tombé en dépression parce que je ne savais pas quoi. Pour photographier, c'était trop dur pour moi. Parce que je n'avais pas d'idée. Et puis quand je faisais une photo à Sandra ou quelqu'un d'autre, ouais, mais tu n'as pas droit de. À la fois. J'ai signé un document que tu n'as pas droit de me filmer, tout ça. Donc pour moi, c'était dur de savoir qui va être filmé, qui va être pris en photo. Voilà quoi.
Donc ça a été très dur, mais au final, tu es satisfaite du travail que tu as pu produire ?
Bah, en fait, j'étais trop stressée, trop prise. Mon cerveau n'était pas trop bien, mais j'essayais de faire quelque chose. Puis j'ai fait un petit peu, bon, j'ai donné un petit peu ça ce que j'avais en moi, puis voilà.
Ça a permis de découvrir d'autres choses, de communiquer avec les autres, d'être plus ouvert. Donc ça m'a apporté plein de trucs.
Est-ce que ça a changé votre perception du château ?
Oui, parce que ça forçait à s'ouvrir, à aller vers les autres.
Moi, bah, j'ai passé mon temps de ma vie en temps précieux. Que, voilà, que quand l'enfant vient, je vais toujours me rappeler de ça.
Okay.
Que j'ai connu le château où je vivais déjà. J'ai fait des stages ici pour quand même pour y être résidente. Puis ça va me rester même quand bon, si je vieillis ou si je suis plus là, tout ça, c'est quelque chose comme une trace que j'ai laissée. Que voilà, pour moi c'est une trace. Puis voilà. Les gens vont se rappeler, quand ils voient mes photos, les gens vont se rappeler de moi, et puis voilà.
Est-ce que ce projet vous a donné envie de faire davantage de photos ?
Oui. Ouais.
Qu'est-ce que le projet vous a apporté ?
Ça m'a apporté du calme. Pas peur, parce que quand je suis avec ma mère, j'ai toujours peur. On va chez les gens, c'est compliqué. Que là j'étais libre et puis je faisais ce que je voulais. Et puis ça m'a apporté la liberté.
Qu'est-ce que vous avez préféré photographier ?
J'ai beaucoup aimé quand il y a eu la neige et qu'on pouvait photographier les paysages enneigés. J'ai bien aimé aussi photographier le chat et certains résidents. Et puis aussi, j'ai bien aimé photographier certains gestes de la vie quotidienne avec certaines personnes qui font le quotidien du château, comme les lingères, le chariot de linge, enfin.
J'avais pas trop d'idées. Et puis, bah, j'ai essayé de photographier un petit peu les studios. J'ai passé des moments agréables là-bas. Et puis, j'ai un petit peu à photographier un petit peu le salon, le deuxième étage. Puis bah voilà, et puis un petit peu ma chambre, ma salle de bain. C'était là où Clémence était avant. Puis voilà.
Avec quel matériel avez-vous travaillé ?
Avec un appareil photo numérique que Ludo Leleu nous avait prêté. Chacun avait le sien.
Est-ce que le lieu était inspirant ?
Oui. On devait photographier le château blanc. Mais ça pouvait être notre chambre, ça pouvait être la cour, ça pouvait être le couloir. Tout à partir du moment où c'était dans le Château Blanc.
Comment avez-vous défini la thématique du quotidien ?
Pour nous, là, sur ce sujet, sur ce projet, c'était la thématique évidente. En fait, c'était ce qu'il y avait, enfin, pas de plus simple, parce que c'est pas simple de photographier le quotidien, mais c'était justement, enfin, on trouvait que c'était très intéressant, justement, de donner à quelques résidents de pouvoir porter un regard sur leur propre, sur leur quotidien, en fait, sur leur quotidien, le quotidien des 5 des 48, des 46 autres, puisqu'il y en avait 6 de résidents, donc il y a... Et de, enfin, moi, je trouvais ça intéressant. Je pense qu'il l'avait peut-être déjà fait avec des mots, avec peut-être des peintures, des choses comme ça, mais probablement pas avec de la photo. Donc c'était plutôt intéressant de les laisser libres de se balader et de photographier leur quotidien. D'ailleurs, l'expo s'appelle Chronique du quotidien.
Et combien de photos y a-t-il eu en tout ?
Je ne saurais pas donner un chiffre parce qu'on n'a pas quantifié les choses. Après, il y en a qui ont photographié plus que d'autres, mais c'était pas une compétition de celui qui en fait le plus ou tout ça. En fait, c'était chacun y allait à son rythme. Chacun faisait le sujet dont il voulait. Ce que disait Johanna tout à l'heure, elle a plutôt photographié l'intérieur de sa chambre. D'autres ont fait les extérieurs. D'autres, Romuald a fait par exemple des autoportraits. Il n'y a pas de quantité, en fait. Je peux pas te donner un chiffre parce que c'était pas le but du. On n'a pas eu le besoin de quantifier. Il n'y avait pas ce besoin, en fait.
Quel format de photo as-tu utilisé ? Pourquoi ?
C'était du 24-36 en numérique. C'était des appareils photo 24-36 en numérique, que ce soit pour eux ou pour le mien. C'était la même chose.
J'ai vu aussi que tu avais exposé des photos à la Lune des Pirates. Est-ce que tu as d'autres expositions prévues aussi ?
Il y en a une qui est en train de se dessiner. Ça sera dans un an. Mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus parce que tant que c'est pas acté, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit.
Comment avez-vous travaillé l'immersion ?
Je suis venu pendant une semaine, tous les mois, donc en général du lundi au dimanche, c'était plus ou moins ça, ou du mardi au lundi, enfin il n'y avait pas de règles vraiment, mais c'était quasiment une semaine, enfin c'était une semaine complète, et écoute, en fait le truc c'était de vivre à votre rythme et d'être présent du matin au soir, donc j'ai partagé votre quotidien, je logeais, je dormais ici, je déjeunais, petit déjeuner et dîner avec vous, je vivais à votre rythme avec vos activités, vos non-activités, tout quoi, la vie du château, et en fait le truc c'est que je me suis pas donné de résultats à avoir, c'est-à-dire pour le coup il y avait pas non plus, je m'étais pas dit faut que je sorte 10 photos, 20, 30 ou 50 par semaine, il y avait rien, c'était j'allais au rythme du château et au rythme, enfin voilà, c'était de me laisser porter et surtout de me faire, enfin que ce soit comment dire, en fait j'arrive chez vous quoi, donc fallait se faire accepter, j'ai pas fait tant de photos que ça en fait, je pense, j'ai plutôt beaucoup échangé, beaucoup discuté, beaucoup écouté, beaucoup parlé, beaucoup regardé, mais j'ai pas fait tant de photos que ça.
Comment s'est déroulée la sélection pour l'exposition ?
Avec Johanna, Clémence et tout ça ?
Oui.
Ouais. Ça s'est déroulé, tu veux raconter, Clémence ?
Oui.
Tiens.
En fait, chaque semaine, Luto nous montrait les photos qu'on avait prises et on sélectionnait celles qui nous plaisaient le plus.
Je vous remercie à tous. Merci beaucoup pour avoir répondu aux questions.
Merci Stéphane.
Merci Stéphane, merci Hubert.
Merci Fifi. Merci.
Vous écoutiez l'interview du photographe amiénois Ludo Leleu. Il était accompagné de Clémence et Johanna, deux résidentes du Château Blanc ADAPI 80 de Flixecourt. L'équipe de Bunka Radio leur a posé quelques questions à propos de l'exposition « Chronique de la vie ordinaire » qu'ils ont réalisée ensemble. Par ailleurs, l'exposition est toujours disponible à la Lune des Pirates. Je vous propose de terminer l'émission avec le premier épisode d'une série consacrée à l'e-sport, un sujet réalisé par Sarah Raymond du Master de Journalisme de l'UPJV. C'est déjà la fin d'Info Club Sandwich. Merci de nous avoir écoutés et à très vite sur l'antenne de Radio Campus Amiens. Au revoir.
Alors non, détrompez-vous, je ne suis pas sur un circuit de Grand Prix de Formule 1, mais je suis chez Guillaume Azevedo d'Acosta qui est simracer. Alors aujourd'hui, on va parler d'e-sport et on va faire un petit question-réponse rapide avec lui. Virtuel Vortex, les héros du clavier. Bonjour Guillaume, alors pour des gens qui ne s'y connaissent pas comme moi, c'est quoi être un simracer ?
Un simracer, c'est un pilote virtuel, donc sur un simulateur, sur un jeu vidéo ou un jeu de simulation de course.
Et tu t'es lancé il y a combien de temps ?
Je me suis lancé dans la compétition depuis 2010.
Tu fais donc des compétitions ? Comment ça se passe ?
Alors c'est pareil que dans la réalité, sauf que là on a des formats plus courts. Au lieu que ça se passe sur 3 jours, ça se passe sur une soirée.
Il paraît que tu coaches, ça t'arrive de rencontrer des personnalités ?
Alors oui, j'ai rencontré des personnalités parce que comme tu l'as dit, je suis coach. Et ça permet d'ouvrir des portes sur plusieurs horizons. Et je peux coacher des personnes tout à fait normales, comme des personnes avec une forte influence. Par exemple, Mister V, Le Bouzeux, SCH, Soso Manes, Théo Juice. Ils ont fait le GP Explorer, donc on va dire que c'est naturellement venu à moi.
Pour toi, l'e-sport, est-ce que c'est du sport, tout simplement ?
Alors, est-ce que l'e-sport, c'est du sport ? Pour moi, oui. Je vais expliquer pourquoi maintenant. C'est très simple, par exemple. Moi, je suis dans le domaine donc, du sport auto et je suis passionné de Formule 1. Et quand on voit qu'aujourd'hui, les pilotes, pour se préparer physiquement, mentalement, et au niveau de la concentration et des réflexes, ils s'entraînent sur simulateur, c'est quand même qu'il y a un aspect déjà sportif là-dedans. Et si je prends par exemple le cas du champion du monde actuel de Formule 1, Max Verstappen, dès qu'il n'est plus dans son baquet de Formule 1, il est dans son baquet de simulation et il s'entraîne. Donc ça, c'est déjà le premier aspect. Et j'ai un autre aspect aussi, c'est les échecs sont un sport. Donc pour moi, si les échecs sont un sport, l'e-sport est un sport parce que pour moi, ça demande beaucoup plus de compétences et il faut être beaucoup plus polyvalent. Aujourd'hui, quand on fait de la compétition à haut niveau, vu qu'il y a eu beaucoup plus d'engouement grâce aux technologies qui sont arrivées, avant il y avait, je sais pas moi, sur une scène e-sportive, par exemple, on prend mon cas, on était 2 ou 3, aujourd'hui on doit être plus d'une centaine, et il faut se démarquer, donc ça va passer par la préparation physique, qui va permettre en fait d'avoir un meilleur mental, donc il y a de la préparation mentale, on peut même voir des psychologues si jamais on a un blocage sur un sujet, et parfois il y a des énormes sommes à gagner, des millions d'euros. Moi pour mon cas, la plus grosse compétition qui m'a permis de gagner de l'argent, c'était une seule course, donc pendant 1h30, et j'ai gagné 600 euros. Donc c'est pas les mêmes sommes, mais dites-vous que voilà, si on rajoute quelques zéros et que on perd cette course là justement, ça peut avoir un énorme impact. Alors ok, après on pourra dire qu'on fait pas ça pour l'argent, mais il y a quand même une grosse préparation. Ça demande énormément de concentration. Et puis je pourrais même mettre un parallèle dans la réalité, quand moi je dois faire un énorme tour chrono, je suis limite en apnée comme les pilotes, parce que si on respire de trop, il va peut-être avoir trop de relâchement. Et il faut trouver le juste milieu entre le côté rigide et le côté souplesse. Et il faut trouver la bonne fluidité. Et c'est tout ça qui me font dire qu'aujourd'hui, c'est un sport. Et je travaille aussi dans un endroit où il y a des simulateurs dynamiques. Et je le vois par rapport aux clients quand ils viennent. Au bout de 15 minutes, ils n'en peuvent plus. Alors qu'ils ont pris 45 minutes de session et ils transpirent, etc. Et donc, dans mon domaine en tout cas, ouais, c'est un sport. Et si on prend globalement d'autres sports, style League of Legends, Call of Duty, WoW, World of Warcraft, la scène, par exemple, League of Legends, aujourd'hui, en Asie, il y a des stades, ils sont plus grands que des stades de foot. Il y a carrément les parents qui incitent les enfants à faire de l'e-sport parce que c'est ce qui leur permettra de gagner de l'argent rapidement. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est tout comme un sport. On a des équipes, on a des préparateurs. Il y a la politique à côté qui va avec. Il y a tout. C'est tout pareil. On prend une équipe de foot, on prend une équipe e-sport. C'est pour moi la même chose.
Et est-ce que tu aurais un conseil justement pour les personnes qui aimeraient bien peut-être se lancer dans l'aventure du e-sport en compétition par exemple ?
Déjà, si on se lance dans la compétition, c'est que je pense qu'on a découvert qu'on avait un bon level de base, un bon niveau. Et le conseil que je pourrais donner, c'est de ne jamais rien lâcher et se dire qu'aujourd'hui, ben, il y a beaucoup de gens. Et on ne doit pas forcément se comparer aux gens, mais il y a quand même ce moment-là où on doit se dire « Ok, où j'en suis, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver ?» Et moi, la chose que je dis dans toutes mes vidéos, c'est il faut s'entraîner, il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, on ne voit pas forcément les gens s'entraîner, mais on voit les résultats. Mais on s'entraîne. Donc, c'est la partie invisible de l'iceberg, celle qui est immergée.
Je laisse Guillaume reprendre son virage et vous invite, vous, auditeurs, à me retrouver dans le prochain épisode.